Thibaud de Rouvray, bonjour.
Bonjour, Gucuda Giraud.
Vous êtes, je le rappelle, président de la Société académique des Hautes-Pyrénées. Nous poursuivons avec vous l'exploration de nos églises, cathédrales et abbayes. Vous avez choisi aujourd'hui d'évoquer les tombeaux et monuments commémoratifs que l'on peut y trouver. Un peu d'histoire, d'abord avec une date charnière, la Révolution. Il y a un avant et un après.
Oui, tout à fait. On reste sur cette coupure, en fait, hein, entre plusieurs siècles de tradition et puis l'évolution des églises qui vont amener à leur configuration actuelle. Puisque avant la Révolution, il est très courant, habituel pour les habitants d'inhumer et d'enterrer à l'intérieur des églises. Et cela sous plusieurs formes différentes.
Oui, alors, les formes, qu'est-ce qui les détermine et qu'est-ce qu'on peut trouver, effectivement, à l'intérieur des églises? Il y a des appellations bien spécifiques?
Oui, alors souvent, les sépultures à l'intérieur de l'église peuvent être signalées par ce qu'on appelle des plates-tombes ou des dalles funéraires, c'est-à-dire que c'est une pierre gravée au niveau du sol sur laquelle figure le nom du défunt, des dates, parfois des symboles. Et puis, on peut trouver des éléments plus élaborés, ce qu'on appelle des enfeux, qui sont
alors,
des sortes...
Ouais, des enfeux.
Voilà, c'est un mot qui n'est pas très courant, mais l'enfeu, il faut imaginer une sorte de niche creusée dans l'épaisseur du mur qui va recevoir la sépulture, et le plus souvent sous la forme d'une cuve, comme un sarcophage, qui peut être recouvert d'un gisant.
Alors, qu'est-ce qui détermine le choix de tel ou tel type de forme de sépulture pour les personnes qui y sont?
Alors souvent, c'est aussi en fonction de la richesse du commanditaire. De pouvoir se faire enterrer dans l'église, c'est déjà souvent un privilège. Et souvent, voilà, le bourgeois, parfois le paysan, va pouvoir avoir une simple dalle. Et puis le seigneur, l'évêque ou le chanoine pourra avoir jusqu'à un gisant où il est figuré, représenté, couché sur une dalle.
Alors, quelques-unes de ces sépultures sont fameuses. Quelques exemples vous viennent à l'esprit en Occitanie, dans les Hautes-Pyrénées ou ailleurs?
Oui, alors un exemple d'enfeu avec des gisants, on en trouve par exemple dans le cloître qui jouxte l'ancienne cathédrale de Saint-Bertrand de Comminges en Haute-Garonne, à Rodez également plusieurs gisants, et deux exemples à Véronée aussi d'églises où on conserve un dallage quasiment intact de plates tombes, à l'église de Bozoul, l'ancienne église Sainte-Fauste, ou celle de Saint-Géniès d'Olt également.
Alors les études et recherches tendent à montrer que tout cela est très très codifié. On n'enterre pas quelqu'un dans une cathédrale ou dans une église comme ça, où on veut, comme on veut.
Oui, chacun a un peu sa place, comme dans la société d'Ancien Régime. Les prêtres vont être inhumés plutôt dans le chœur, et puis la nef réservée à des notables. Des chevaliers, des seigneurs peuvent être dans leur chapelle privée attenante à l'église. Il y a une sorte de, enfin, on peut parler d'une sorte de géographie de l'au-delà aussi, en fonction de la façon dont on est décédé.
Il y a une place toute spéciale réservée aux enfants, par exemple, morts sans baptême.
Oui, alors les enfants qui sont morts avant d'être baptisés, la tradition les place dans une zone qui n'est ni le paradis ni l'enfer. C'est ce qu'on appelle les limbes. C'est une sorte d'endroit où ils aboutissent après leur décès. Souvent dans le cimetière, on a ce qu'on appelle le carré des limbes, qui est tout à fait séparé, distinct, où on va enterrer ces enfants morts sans baptême.
Alors vous m'avez dit en préparant cette émission qu'en fait on cherche à être enterré au plus près des reliques des saints ou de l'autel. Alors comment accéder justement à ce plus près?
Oui, c'est vrai que c'est un peu une course hein, pour les défunts de trouver un emplacement au plus près des reliques. C'est l'emplacement le plus sacré, hein, celui qui peut permettre d'atteindre l'au-delà et le paradis le plus facilement, avec soit la possibilité d'être enterré au plus près des autels, au plus près de la barrière de communion. Et parfois, il y a un expédient. On peut être enterré en dehors de l'église, mais contre les murs, sous les gouttières. Comme ça, la pluie qui baigne le bâtiment hein, va rejaillir sur ces tombes. C'est une sorte de bénédiction perpétuelle pour les défunts.
Alors, ce n'est pas encore un cimetière. Hein. On est en toute marge de l'église,
oui.
Mais ce n'est pas encore un cimetière.
Alors, il y a tout de même, depuis au Moyen-Âge, des sépultures en dehors de l'église. Hein. Le lien entre le cimetière et l'église, il est fait depuis le haut Moyen-Âge. Mais voilà, il y a des régions vraiment où il y a une tendance, c'est d'être enterré au maximum, en majorité, à l'intérieur du bâtiment.
Alors, il y a aussi ce détail que j'ignorais. C'est, vous m'avez dit qu'une même personne peut avoir plusieurs tombeaux renfermant des parties différentes de son corps.
Oui, alors ça nous paraît un petit peu sauvage, on pourrait même dire entre guillemets un peu gore de nos jours, mais c'est une pratique, hein, de la même façon qu'on peut avoir des reliques de saints qui sont distribuées, les corps, notamment des grands seigneurs, peuvent avoir plusieurs tombeaux. On peut avoir, donc on va vraiment dépecer le cadavre, on peut enterrer à un endroit le corps, mais un autre endroit, le cœur également, voire les entrailles. C'est une façon pour le défunt de faire plaisir un petit peu aux différentes églises qui dépendaient de lui.
Alors je crois qu'il y a un exemple illustre, c'est en Bretagne.
Oui, en Bretagne, on a conservé, puisque beaucoup de ces tombeaux ont été détruits, mais on a conservé le réceptacle de cœur, donc qui est une petite boîte dorée hein, qui a contenu le cœur d'Anne de Bretagne, décédée au tout début du XVIe siècle.
Il y a des exemples en Occitanie ?
Alors en Occitanie, je n'en connais pas. Il y a dans une église des Hautes-Pyrénées, le tombeau de cœur d'un membre de la famille de Montesquieu. Il me semble que c'est à Artagnan, de mémoire. Mais voilà, beaucoup ont disparu ou ne sont pas connus, puisque cachés.
Alors, tout cela est très codifié, vous nous l'avez dit, dans la géographie, mais aussi, j'imagine bien, dans l'étiquette. Les pauvres et les manants ont s'abstenir, j'ai envie de dire.
Oui, mais il y a quand même une exception. C'est vrai que dans les Hautes-Pyrénées, j'ai pu étudier plusieurs exemples où on se rend compte que jusqu'au XVIIIe siècle, finalement, c'est la majorité des habitants qui réussissent à se faire enterrer à l'intérieur de l'église. Probablement en échange, même très certainement, d'une petite obole aux moines ou aux prêtres qui desservent les lieux. Et ils sont enterrés sous les dalles des tombes qu'on appelle localement des houssas.
Des houssas.
Voilà, houssas, c'est le nom gascon, hein, patois, de ces tombes. Et ce qui est intéressant, c'est que au-dessus, donc à la surface du sol, c'est la famille du défunt qui se place au-dessus de ses morts, notamment les femmes, et c'est elles qui vont faire les cérémonies funèbres, qui vont notamment y faire brûler les cires de deuil lors des enterrements.
Alors nous le disions en tout début d'émission, il y a une date charnière, on va dire que c'est la Révolution ou cette fin 18e. À partir de quand, en fait, cette pratique va-t-elle changer et qu'est-ce qui amène ce changement ?
Alors c'est dans les années 1770, en fait, c'est une décision du roi Louis XVI. On est au siècle des Lumières, il y a une progression d'un courant dit hygiéniste. On ne supporte plus en fait les inhumations à l'intérieur des églises. On décrit des scènes d'émanations toxiques, de gens qui s'évanouissent à l'intérieur du fait des inhumations. Et l'exemple le plus flagrant, c'est celui de Paris, ou même des grands cimetières comme le cimetière des Innocents, qui étaient élevés de plusieurs mètres au-dessus de la voie publique, vont être supprimés. Et on va enlever tous les ossements et on va les stocker dans d'anciennes carrières qui sont les actuelles catacombes de Paris.
Alors, malgré cette modification des inhumations, il y a toutefois un certain nombre d'exceptions qui perdurent encore aujourd'hui.
Tout à fait, oui. À partir du début du XIXe siècle, le code Napoléon permet de créer des chapelles et des petits mausolées privés pour des familles qui souhaitent enterrer leurs défunts à l'intérieur de propriétés. Et un autre exemple qui perdure encore, c'est celui des évêques qui ont la possibilité de se faire inhumer à l'intérieur de leur cathédrale.
Alors cette pratique de l'inhumation dans une église n'a pas totalement disparu de nos jours, mais c'est notamment le cas de l'autre côté des Pyrénées. Pour terminer, cette petite info, la lecture d'un papier tout récent du Monde nous apprend que la fille du dictateur Franco, Carmen, elle est morte fin décembre à 91 ans. Ses obsèques ont été célébrées il y a quelques jours, c'était le 11 janvier, et ses cendres, ont été transférées dans la crypte de la cathédrale de Madrid, la cathédrale de l'Almudena, où seuls les riches privilégiés reposent là-bas pour l'éternité.
Très bien.
Merci Thibault, à très bientôt. Luc.